Europa Voice. Et comme chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, eh bien, c'est le dernier épisode avant la fin de l'année. Nathanaël, on va forcément parler du Qatar, mais pas du Qatar en tant que Coupe du Monde, hein, puisqu'il se passe d'autres choses avec le Qatar, notamment avec le Parlement européen.
Oui, effectivement, Christophe, le Qatar sous le feu de tous les projecteurs en ce moment, évidemment pour la Coupe du Monde, et on souhaite le meilleur à nos bleus. Mais malheureusement, c'est pour des événements un petit peu moins reluisants, puisque en fait, il se passe ce qu'on appelle, ce que les analystes appellent le Qatar Gate, c'est-à-dire des soupçons de corruption au Parlement européen, des soupçons de corruption, Christophe, au profit du Qatar.
Corruption, c'est toujours un énorme problème à travers la planète. Mais là, quand même, au sein du Parlement européen, à quel point c'est choquant que ce soit vraiment à ce niveau-là du Parlement européen aussi?
J'allais dire, Christophe, c'est choquant pour trois raisons principales. D'abord, c'est choquant parce qu'en fait, cet événement ne vient pas seul. Hein. On l'a rappelé, on est en pleine Coupe du Monde où il y a déjà des soupçons de corruption quant à l'organisation, hein, quant aux raisons d'organisation de cette Coupe du Monde. Donc, ça rajoute un petit peu, j'allais dire, de l'eau dans le gaz de la relation entre l'Union européenne et le Qatar. Hein. Ça, c'est le premier élément, c'est que ce n'est pas un événement isolé, ces soupçons de corruption. Le deuxième élément, Christophe, ça choque parce que ça concerne en fait une institution démocratique qui déjà bénéficie d'une certaine défiance d'une partie de la population, en l'occurrence les institutions européennes, le Parlement européen. Donc, si vous voulez, ça met encore un peu plus, ça rajoute encore un peu plus de discrédit pour les eurosceptiques ou pour ceux qui ont des critiques à faire quant au fonctionnement démocratique de nos institutions. Et puis, Christophe, dernier élément, peut-être le plus important, c'est que c'est choquant par l'ampleur de cette corruption, j'allais dire l'ampleur pour deux raisons. D'abord, l'ampleur, et on a des éléments qu'on va encore découvrir dans les prochains jours, mais l'ampleur du nombre de personnes qui sont impliquées. Il y a notamment la députée européenne grecque qui n'est plus, mais qui était vice-présidente du Parlement européen, mais il y a tout un tas aussi de personnes liées à certaines organisations non gouvernementales, un président de l'association des anciens collaborateurs européen. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Et puis par la dimension, encore une fois, je le rappelle, hein, la principale suspecte de cette corruption, c'est pas simplement une députée européenne, c'est l'ancienne vice-présidente du Parlement européen. Donc c'est la tête de cette institution qui elle-même est accusée de corruption. Et donc c'est pour ces différentes choses, Christophe, que c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Et puis encore une fois, on en parle, on l'analyse tôt, mais on sait très bien qu'on va découvrir d'autres choses dans les prochains jours qui pourront sûrement impliquer encore pléthore de nouveaux acteurs.
Et pourtant, ce Parlement européen, il avait quand même une belle image de transparence. C'était vraiment, on se fiait à la transparence de ce Parlement européen.
Alors, on se fiait effectivement à la transparence de ce Parlement européen, mais j'allais dire, le problème, c'est pas tellement la question de transparence, c'est plutôt l'absence notamment de contrôle indépendant, notamment par rapport aux relations avec les différentes organisations, encore une fois, non gouvernementales. Et puis, surtout, c'est la question, on en a un peu parlé en France, Christophe, parce qu'on a une différence de vision entre le monde anglo-saxon et le monde, on va dire, plutôt latin. Dans le monde anglo-saxon, la pratique de l'influence, du lobby, des affaires publiques est quelque chose qui est très institutionnalisé, qui est très professionnalisé. Quand on passe dans les institutions européennes, donc, et notamment dans les principaux pays, la France, l'Allemagne, les pays du sud de l'Europe, la question des représentants d'intérêts, des lobbyistes, etc., notamment quand on parle des lobbyistes des pays tiers, c'est quelque chose qui tout de suite fait un petit peu appel à un imaginaire négatif, à quelque chose de nébuleux. Et donc, c'est là aussi où il va y avoir un travail important, et c'est peut-être d'ailleurs souvent le plus important quand il s'agit de cette affaire-là, c'est évidemment de juger cette affaire-là, de voir ce qui a dysfonctionné, de faire les changements nécessaires au sein des institutions européennes, mais surtout d'en tirer les conséquences et de voir quelles règles, justement, on va mettre en place pour que, et c'est pour moi un élément, Christophe, en tant que communicant professionnel, qui est très important, on ne peut pas faire comme si les lobbyistes, les personnes qui travaillent dans la communication d'influence, n'existaient pas et n'étaient pas utiles à la société. Ils défendent chacun l'intérêt de leurs institutions, de leur entreprise, d'un pays tiers, de l'image de pays tiers. Ça, c'est essentiel. Mais comment est-ce qu'on trace cette ligne qui est assez fine entre la défense de ces intérêts-là et puis les premiers signes qui font qu'on va tomber dans la corruption. La corruption elle-même, évidemment, 1 million de billets en cash chez soi, Christophe, il n'y a pas de question. Mais la question, c'est comment est-ce que on peut passer si facilement de cette activité-là, dont encore une fois les institutions ont besoin, à quelque chose qui va nous faire entrer dans l'illégalité et qui amène in fine, en dernier recours, à des pratiques là pour le coup punissables par la loi que sont la corruption. Et pour moi, c'est ça peut-être l'élément le plus important de cet épisode-là.
On sait qu'est-ce que les gens encourent. Est-ce qu'il y a une immunité parlementaire? Est-ce qu'il y a une protection en termes de corruption? Qu'est-ce qui risque d'arriver à tous ces gens impliqués?
Alors, si on prend, si on parle d'Eva Kelly, donc la députée européenne qui était la vice-présidente du Parlement européen, elle, on sait qu'elle est encore, à l'heure où on se parle, là, en prison à Bruxelles. Ce qu'on sait par rapport aussi à, dont vous parliez, hein, cette immunité parlementaire et son arrestation, c'est qu'en fait, le fait qu'on a trouvé ces billets-là, etc., ça a permis de lever...
On parle d'un million d'euros dans une mallette quand même.
On parle d'un million d'euros dans une mallette, on parle de cash qui a été gardé chez soi, on parle aussi d'une déclaration complètement ubuesque de son avocat qui disait que l'élu n'avait pas connaissance de l'existence de cet argent. Mais donc en fait, ce délit-là, ce flagrant délit-là, c'est celui-là qui a permis la levée de l'immunité parlementaire de l'élu et donc de son arrestation. Ce qui plutôt est un bon signe, là, Christophe, si je m'éloigne juste du terrain légal, mais je rentre dans le terrain de la communication, de l'opinion, ce qui est plutôt un bon signe quand même pour l'opinion publique, de montrer que oui, il y a des mécanismes qui permettent aux élus de la nation, que ce soit dans les parlements nationaux, dans les parlements européens, des mécanismes qui permettent de garantir une immunité parlementaire, mais qu'il y a des limites quand même à cette immunité, et notamment ce flagrant délit-là et ces suspicions de corruption. Donc, pour l'instant, c'est les dernières nouvelles qu'on a de ce point de vue-là. L'autre chose qu'on sait, c'est que le Parlement, les institutions européennes vont aussi continuer à avoir ces discussions la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, pour justement savoir quelles sont les prochaines étapes. On sait déjà, et encore une fois, c'est un bon signe là pour l'opinion publique, que quand il y a eu ce vote au Parlement, justement pour cette levée de l'immunité et les poursuites, en fait, à peine 3 députés européens s'étaient abstenus. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une conscience que quelque chose de grave est en train de se passer et qu'on n'est pas dans un entre-soi, se protéger les uns les autres. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment souhaitable et louable pour tous ceux qui défendent les institutions européennes et qui croient en la vertu de ces institutions.
Alors, il y a aussi une question qui se pose. Je vous lis les noms. Les gens impliqués, il y a Eva Kelly, on l'a dit, ex-présidente du Parlement européen. Mais il y a aussi son compagnon, Francesco Giorgi, son assistant parlementaire, Luca Vicentini, okay, Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé, qui est directeur de l'ONG qui est mise en cause, Niccolo Figa Talamanca. Ils sont tous italiens. Est-ce qu'on peut tirer une ligne droite directement vers l'Italie dans cet imbroglio?
Est-ce que c'est une vengeance parce que l'Italie n'était pas qualifiée, Christophe, à la Coupe du Monde?
Qualifiée ou pas à la Coupe du Monde, ça ne change rien.
Non, ça ne change rien. Non, c'est, alors, c'est, en fait, sous couvert de blagues ou de jeux de mots ou je ne sais quoi, mais en fait, c'est une vraie question. Parce qu'encore une fois, on parle de travailler sur l'image d'un pays, en l'occurrence le Qatar, donc de défendre les intérêts d'un pays. Et donc, il est évident, en fait, que le fait que de nombreux ressortissants italiens soient impliqués dans cette affaire-là va emmener les enquêteurs à fouiller un petit peu du côté des relations entre l'Italie et le Qatar, les relations bilatérales, le montant des dernières transactions. Donc en fait, effectivement, c'est une question qui va se poser. Pourquoi autant de ressortissants, d'acteurs italiens sont impliqués là-dedans? Moi, je crois aussi, ce qui va se poser comme question, c'est des questions sur, encore une fois, le fonctionnement des institutions démocratiques. Vous l'avez mentionné, un des principaux aussi inculpés pour corruption, blanchiment et organisation criminelle, qui a d'ailleurs été écroué, c'est Francesco Giorgi. C'est un assistant parlementaire, mais c'est aussi le compagnon d'Eva Kelly. Donc, vous voyez, on retombe aussi dans les mêmes, dans les mêmes circuits d'analyse ou les mêmes... travers qu'on trouve des fois dans nos parlements nationaux, c'est-à-dire avec des relations plus que de compagnonnage entre différentes acteurs. En France, on l'avait eu beaucoup par rapport, rappelez-vous-en, et pour nos auditeurs d'Europa Voice, on l'a eu beaucoup sur toutes les questions du travail fictif, des assistants parlementaires, des maris d'eux, des femmes d'eux, des cousins d'eux, etc. Et en fait, c'est des vraies questions qui doivent se poser. C'est, est-ce que ce genre de comportement, ce genre de relation est compatible avec un bon fonctionnement des institutions démocratiques? Et puis moi, la deuxième chose aussi que je trouve intéressante, c'est que, encore une fois, ça implique aussi des acteurs para-institutionnels. C'est-à-dire que ça implique notamment le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, qui est une organisation avec des membres, qui a aussi un travail de lobby à faire pour défendre les intérêts de leur confédération. Ça implique aussi le secrétaire général de l'ONG qui s'appelle No Peace Without Justice, qui promeut les droits humains, la démocratie, l'état de droit. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant parce que ça, on est à la lisière aussi des relations qu'il peut y avoir entre les institutionnels, les ressortissants de l'Union européenne, mais aussi tous ces acteurs para-institutionnels qui sont censés défendre des causes, qui sont censés défendre certaines catégories de population, certains groupements d'intérêts. Et donc ça, c'est des vraies questions. Et encore une fois, je crois que le parapluie, pour traduire en mauvais français un terme anglais, le parapluie de tout ça, c'est la question des lobbies d'intérêts, des groupes d'intérêts. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un fonctionnement démocratique sans tomber dans la corruption, où on a effectivement des lobbyistes professionnels qui sont là, qui promeuvent l'image de pays, qui font de la diplomatie presque parallèle. Et ça, je crois que c'est une vraie question, et ça peut même donner un ça peut même être bénéfique, Christophe, pour le fonctionnement de nos institutions, et notamment nos institutions européennes.
Allez, direction maintenant un autre côté de l'Europe, hein, un peu plus loin de Bruxelles, mais le Kosovo qui a officiellement acté sa demande. Enfin, expliquez-nous exactement où on en est, parce que c'est pas anodin et il y a quand même pas mal de répercussions par rapport à la guerre qui a pu y avoir il y a un petit moment dans la région, hein, de l'ex-Yougoslavie. Que le Kosovo accède ou non, mais qui accède à l'Union européenne, ça peut être vraiment un signe très fort quand même.
Bien sûr, Christophe, c'est pas encore historique, mais c'est un petit pas de plus vers cette idée d'intégrer aussi d'autres pays dans l'Union européenne, hein, avec cette ouverture à l'Est. Rappelons-vous-en, dans les années 2000, on a assisté à vraiment une extension des pays de l'Est. Les pays encore qui sont encore un peu loin de cette adhésion, en tout cas qui sont encore dans le processus, ce sont les pays des Balkans. Et là, on a un événement qui fait un peu date. C'est en fait le Kosovo, Christophe, débute son long chemin vers une potentielle adhésion à l'Union européenne. Alors, il faut le rappeler, hein, le Kosovo a seulement officialisé sa demande d'adhésion à l'Union européenne. C'est-à-dire que ça doit maintenant être étudié par les pays de l'Union européenne qui vont ou non permettre à la Kosovo, eh ben, d'avoir un statut de pays candidat à l'Union européenne et donc de suivre la procédure normale. Juste pour vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien, on a eu aussi une autre décision importante cette semaine, c'est la Bosnie-Herzégovine qui, elle, avait déjà fait sa demande donc pour adhérer à l'Union européenne. Et là, la Bosnie-Herzégovine a obtenu son statut de pays candidat à l'Union européenne. C'est-à-dire que la Bosnie-Herzégovine, maintenant, va faire sa candidature, être acceptée ou non. Le Kosovo, on est encore une étape antérieure à ça, Christophe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si l'Union européenne va donner au Kosovo, pardon, son statut de pays. Donc, on est encore dans les prémices, mais en tout cas, c'est quand même un petit événement pour cette région de l'Europe.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, par cette demande et la réponse qui sera donnée, l'Europe joue son rôle, le rôle premier qui était né du Conseil européen avec les pères fondateurs, hein, Adenauer, Schuman, Churchill aussi. Et ces pères fondateurs, ils avaient cette idée que l'après-guerre, il pouvait pas y avoir une nouvelle guerre et que au sein de l'Europe et que l'Union européenne, ce qui est devenu l'Union européenne plus tard, jouera ce rôle de protection. On sait ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Donc le fait que des pays qui étaient anciennement partie d'un pays comme la Yougoslavie, essaye même d'intégrer l'Union européenne, c'est super important. Et on peut aussi penser par rapport à la Macédoine, qui a des relations un peu tendues avec la Grèce. Enfin, l'Europe, vraiment, là, on sent que joue son rôle aussi d'essayer de maintenir la paix sur ce qu'on peut appeler le vieux continent.
Vous avez raison, Christophe, de mentionner, hein, ces pères fondateurs au sens un peu élargi de l'Union européenne, Churchill, Adenauer, Schuman, Spaak, Gasperi, parce que c'était leur idée, en fait. c'était d'avoir une confédération de pays, une fédération de pays, mais en tout cas d'avoir des pays qui se mettent ensemble pour garantir, en fait, de par une coopération économique, d'abord, hein, c'est la communauté économique de charbon et d'acier, notamment entre la France et l'Allemagne après-guerre, puis après le traité de Rome en 1957. Donc, c'est parce qu'on a une coopération entre pays qu'on va avoir des relations d'égal à égal, qu'on peut après garantir la paix parce qu'on sera dans une sorte de relation d'interdépendance. Donc, c'est effectivement un des rôles premiers, Christophe, vous avez raison de le mentionner pour nos auditeurs d'Europa Voice, c'est de garantir la paix sur le continent européen. Et ce n'est pas anodin non plus que l'Union européenne accède à cette demande du Kosovo la même semaine où, en fait, il se passe ce qu'on a décrit avec la Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'ensemble qui est là. Le seul petit bémol, Christophe, que je mettrais, enfin les deux seuls petits bémols, c'est d'abord, il y a toujours quand même avec le Kosovo, il ne faut pas oublier de le mentionner, mais il y a 6 États membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il va y avoir des discussions avec les pays de l'Union européenne, c'est comment est-ce qu'on va aller au-delà de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui maintenant commence à avoir des conséquences dans l'Union européenne. On parle là du Kosovo, mais il y avait la même chose avec la Macédoine du Nord. Donc il va falloir quand même qu'on règle ces questions-là d'une autre mesure, j'allais dire. Christophe, on a aussi un peu cet élément-là avec la Turquie et notamment la Grèce, et voilà la position grèce par rapport aux Turcs. Donc il y a quand même toujours ce blocage interne, c'est-à-dire comment est-ce que on peut faire avancer ces processus d'adhésion quand, à l'heure à laquelle on se parle, on a toujours des États membres qui ne reconnaissent pas officiellement un pays, premier élément. Et puis deuxième élément, Christophe, aussi, il va falloir quand même qu'on fasse très attention, on est toujours sur cette ligne de crête entre, et j'aime bien en parler, entre approfondissement et élargissement. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de l'Union européenne où on achoppe un peu sur les prochaines étapes de l'approfondissement, sur une diplomatie européenne, sur une armée de défense européenne, sur une politique d'immigration à l'échelle européenne et pas laisser un seul pays, notamment l'Italie à Lampedusa, gérer tous les flux de migrants. Donc on a encore beaucoup d'efforts à faire sur ces processus d'approfondissement, d'intégration des pays qui sont déjà membres de l'Union européenne. Et puis ce qui se passe là avec le Qatar Gate, ça va pas aider, on va dire, versus en fait ces velléités d'élargissement, c'est-à-dire élargir au plus grand nombre le club, ou en tout cas l'accès à l'Union européenne. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire aussi, Christophe, tout ça, c'est que quand on élargit un petit peu les frontières de l'Union européenne, on n'a plus non plus de zone tampon avec les acteurs dehors. C'était d'ailleurs une des grosses problématiques l'Union européenne avait dit que l'Ukraine pouvait totalement rejoindre l'Union européenne, c'est qu'en fait, l'Ukraine était le dernier tampon entre l'Union européenne et la Russie. Donc, c'est-à-dire que si après, il se passe une agression russe, notamment en Ukraine, membre de l'Union européenne, c'est une agression directement de l'Union européenne et plus une agression d'un pays tierce, tampon entre l'Union européenne et la Russie. Et bien ça, il faut aussi y penser, Christophe, parce que plus on élargit l'Union européenne, et bien moins on a ces zones tampons avec d'autres pays extérieurs à l'Union européenne qui peuvent être au cas par cas menaçants.
Et si l'Europe était simple, on le saurait.
Et si l'Europe était simple, on le saurait, mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi prendre avoir un peu de recul. Vous parliez, Christophe, vous mentionnez Churchill, Adenauer, Schuman, ces pères fondateurs. On parle quand même de quelque chose qui a à peine 70 ans. La communauté économique européenne, le traité de Rome, ces choses-là, elles ont même pas 70 ans. Donc, il faut aussi voir tout le chemin qui a été fait pour construire ex nihilo une communauté, un ensemble politique cohérent, alors encore avec beaucoup de défauts, mais je préfère rester optimiste. Alors il va falloir gérer maintenant dans l'intervalle ces Qatar Gate et autres, mais rester optimiste et saluer en fait les efforts justement à la fois de l'Union européenne d'accueillir ses nouveaux membres, en tout cas d'accueillir les procédures d'adhésion de ces nouveaux membres, mais aussi ces nouveaux membres qui veulent rejoindre cette construction politique récente et pleine d'avenir.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour conclure, il faut se souvenir qu'avant 1986, l'Espagne et le Portugal n'étaient pas dans l'Union européenne. Il y avait une Europe des 10, après on est passé à l'Europe des 12, et c'est là où ça a commencé un petit peu, entre guillemets, à s'emballer sur l'intégration de nouveaux pays. Donc l'Europe est toujours en mouvement depuis un bon moment. Et c'est vrai que 1986, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, finalement, dans l'histoire d'un continent comme l'Europe.
Il n'y a pas si longtemps que ça, et surtout, c'est aussi une velléité. C'est intéressant de mentionner parce que ça veut dire qu'avant, l'Europe était cantonnée aussi aux pays fondateurs, aux pays de l'ouest de l'Europe, à certains pays du sud, Portugal, Grèce, mais on n'avait pas du tout tous ces pays de l'est de l'Europe et ces pays baltes ou les pays ou les Balkans, pardon. Et on le voit là avec ce qui se passe en Europe avec le conflit russo-ukrainien, c'est un enjeu aussi pour l'Europe d'être capable d'intégrer ces pays-là qui ne demandent d'ailleurs qu'à rejoindre les pays en voie de développement. On avait parlé, hein, le PIB, Christophe, des habitants par habitant en République tchèque est à l'heure actuelle plus élevé que celui en Espagne. La Pologne a atteint des indices de développement sur les critères de l'OCDE qui sont aussi bons, si ce n'est meilleurs, que certains pays de l'Europe de l'Ouest. Et bien ça, c'est aussi possible, d'abord pas parce qu'il y a eu la fin de la guerre froide, mais parce que l'Europe a su prendre le pli d'intégrer aussi tous ces pays de l'Est européen. Et c'est pas simple, vous l'avez mentionné, mais j'espère et je pense qu'on est sur de bonnes voies.
Absolument, affaire à suivre.
Affaire à suivre. Bonne fin d'année, Christophe. Bonnes vacances de fin d'année.
Merci à vous aussi, Nathanaël. À l'année prochaine.